tout de suite, on retrouve mes invités, direction le musée de la faïence et des beaux-arts de Nevers. Le dernier week-end de mars, le musée de la faïence et des beaux-arts de Nevers fêtait sa réouverture, une réouverture couplée à 50 bougies, puisque le musée célébrait également son 50e anniversaire, et à cette occasion, le public a pu découvrir l'inauguration, par exemple, de l'exposition Data de Julien District, qu'on va évoquer, bien sûr, avec mes invités, une saison, bien sûr, à venir, où on va pouvoir évoquer les attentes et les différentes attractions qu'on va pouvoir découvrir au sein de ce musée. Bonjour Françoise Hervé.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici et de vous parler un petit peu de notre musée de la faïence et des beaux-arts. Mais c'est aussi maintenant, depuis 3 ans, le centre d'art contemporain. Et nous accueillons donc, comme tu l'as dit, Julien District. Et nous mettons toujours à la disposition du centre d'art qui n'a pas de lieu pour s'exposer, le centre d'art contemporain.
Hein. Oui, c'est un partenariat.
Voilà, nous mettons à disposition pendant 3 mois, c'est-à-dire on fait une ouverture avec eux tous les ans, c'est prévu comme ça, et ensuite s'ils ont une exposition pendant l'été où ils ne savent pas aller, eh bien nous les hébergeons gratuitement, évidemment, tout ça est gracieux, soit au Palais Ducal, soit dans un lieu, voilà.
Mais on aura bien sûr évidemment l'occasion de revenir sur cette exposition, cette exposition qui s'appelle L'envers des paupières. D'ailleurs, vous êtes accompagné de Marie-Lise Chevalier, bonjour, vous êtes chef de service Pôle Patrimoine et Transmission à la ville de Nevers. Comment elle s'annonce, cette nouvelle saison, pour le musée avant tout ?
Eh bien, si on en croit les chiffres du week-end de réouverture, très très bien en fait, puisque nous avons accueilli là sur les 3 premiers jours 629 personnes précisément.
C'est très précis, oui, effectivement.
Oui, c'est... Non mais en fait c'est important parce que ça veut dire que le musée attire, c'est quasiment le double du week-end de réouverture
l'année
dernière.
C'est une jauge sur laquelle vous vous basez pour évaluer un petit peu la saison à venir ?
Oui, en fait, disons, ça mesure surtout l'attente des visiteurs, en fait, à l'égard du musée, puisque là, on a accueilli surtout un public local, quand même. Ouais. Donc, ça veut dire que les visiteurs sont heureux de revenir et de profiter des actualités offertes par le musée.
Bien sûr, et des visiteurs qui vont augmenter, bien sûr, avec la saison touristique qui va commencer dans quelques semaines. Maintenant, même s'il y a déjà des vacances qui ont commencé, on peut rencontrer quelques touristes sur Nevers. Saison particulière également parce que 50 ans.
Tout à fait. Alors 50 ans, il faut le dire, mais avec explication longue derrière, sinon après on se fait tirer les oreilles. Donc le musée n'a pas 50 ans, le musée est installé depuis 50 ans dans l'abbaye Notre-Dame, donc rue Saint-Genest, dans le quartier des Faïenciers. Mais c'est donc un musée qui a été créé dans les années 1840 et qui a connu plein de lieux différents d'installation avant finalement de se poser là, dans ce quartier qui fait sens quand même au regard de ses collections.
Oui, bien sûr, avec une collection d'ailleurs qui est une nouveauté. Françoise Hervé le disait tout à l'heure hors antenne, que c'était génial, que c'était super intéressant. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir cette expo, mais je crois, Françoise, sur parole, une nouvelle thématique qui est l'apothicairerie.
Oui, tout à fait. Alors, c'est donc un petit insert dans le parcours permanent qui permet d'évoquer la manière dont la faïence de Nevers s'est finalement diffusée un peu partout en France. Puisque si vous visitez des hôtels-dieu, comme par exemple à Beaune, à Chalon, à Dijon, etc., vous allez retrouver des apothicaires, c'est-à-dire d'anciennes pharmacies, dans lesquelles tous les pots sont en faïence, parce que c'était un matériau fantastique pour conserver en fait les éléments médicinaux.
Et c'est évidemment, moi je suis très contente parce que je tirais la langue devant celle des hospices de Beaune où il y a de magnifiques pots et de voir que Marie-Lys a commencé de nous faire une belle apothicairerie avec toutes ces pots en faïence qui contenaient des plantes magiques, dont la teria qui nous permettait d'aller plus vite voir le ciel. eh bien teriaca, ça s'appelle comme ça, ils mettaient tous les ingrédients qu'il leur restait là-dedans, et quand vraiment le malade était fini, on lui donnait
bon
une
voyage.
Dernière cuillère et c'était fini. Donc moi je suis ravie, il y a une de belles menuiseries qui accompagne cet endroit, et donc ça va être très chouette pour notre public.
Ouais, avec des explications aussi, j'imagine, sur le rapport entre ces pièces-là et la ville de Nevers. Alors bien sûr la faïence, mais peut-être pas que d'ailleurs.
Oui, alors en fait ces pièces, elles ont un rapport direct avec Nevers puisque ce sont celles en grande partie du centre hospitalier. Donc elles sont en dépôt au musée de Nevers, mais en réalité elles étaient donc à l'hôpital jusqu'à son déménagement donc il y a, je ne sais plus, une quinzaine d'années, quelque
oui,
chose comme ça.
Oui, Pierre Bérégovoy, peut-être même un peu plus.
Donc ça a été vraiment utilisé à Nevers. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'hôpital de Nevers, en fait, pratiquaient des communautés de religieuses, et notamment les Sœurs de la Charité, qui est donc la communauté de religieuses de Bernadette. Donc c'est aussi créer un lien finalement avec Bernadette dans la ville que de présenter cette apothicairerie.
Ouais. Et rappeler bien sûr aussi ce patrimoine neversois. Il y a une autre exposition également à retrouver, on le disait tout à l'heure en début d'émission, celle de Julien District, Discrete, L'envers des paupières.
Oui, alors le titre est évocateur, hein. Il s'agit quand même de parler... en fait, de ce qui peut surgir effectivement quand on ferme les yeux. Donc il y a un rapport au rêve, à la notion de mémoire. En fait, c'est une exposition qui explore les différentes dimensions du temps. Mais c'est difficile d'en parler, je crois vraiment qu'il faut aller la voir.
Il faut la voir pour comprendre, bien sûr.
Parce qu'on ressent vraiment des choses, on est immergé dans des ambiances qu'il est difficile de décrire.
Elle sera disponible jusqu'à quand, cette expo?
Alors, elle est visitable jusqu'au 1er juin inclus.
Donc il reste encore un petit peu de temps aux horaires d'ouverture, bien sûr, du musée. Ça fait partie des expos gratuites.
Bien sûr,
oui, tout à fait.
C'est un partenariat, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure avec Françoise Hervé, avec le Centre d'Art. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats également qu'on aura l'occasion de découvrir au Musée de la Faïence pour d'autres projets?
Alors, on va travailler avec différents acteurs culturels. Alors, au sein des services de la ville, on va travailler avec le service spectacle vivant pour renouveler la Garden Party, hein, le festival d'été qui a lieu en juillet.
Qui avait beaucoup plu d'ailleurs.
Oui. Tout à fait.
Un vrai succès, hein, un vrai succès. Pendant 3 jours, vraiment, on a vu défiler beaucoup de populations, que ce soit des Neversois, des touristes, des enfants, avec des concerts et tout un tas d'activités présentées. Le soir, vraiment une ambiance très sympa. Possibilité aussi de se restaurer sur place. Non, vraiment un vrai succès. Hein.
On va retrouver ces garden parties, il y en aura plusieurs.
Alors, c'est donc pendant 3 jours, 11 au 13 juillet, si ma mémoire est bonne. Et donc, en fait, ça va faire intervenir différents acteurs, parce qu'il y aura des compagnies de théâtre, mais il y a aussi des acteurs locaux qui vont contribuer, notamment le Centre Social du Verpré, qui est notre voisin, en fait, donc ça fait sens aussi.
C'est vrai.
Et puis, lors de cet événement, on travaillera aussi avec le Conservatoire du Jeu, qui proposera donc des jeux de pistes.
Des animations, bien sûr. Ça, ça fait partie des partenariats qu'on aura, bien sûr, l'occasion de découvrir. Il y a d'autres, alors c'est pas vraiment des expos, des accrochages, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où on peut retrouver Hercule et puis des natures mortes également. En fait, on peut se baser aussi sur la vidéo qu'on a tous pu voir sur les réseaux sociaux de la ville de Nevers, où il y a un intrus dans le jardin et au final, vous allez lui présenter les quelque chose à découvrir.
Oui, même les intrus sont les bienvenus au musée. Il n'y a pas d'intrus. Oui, alors en fait, on a renouvelé un petit peu l'accrochage permanent. Bon, ça fait partie en fait de la dynamique qui est impulsée là au musée et qui a vocation à se poursuivre dans les années qui viennent. L'idée, c'est vraiment qu'on a plein d'œuvres en réserve. Donc, on va essayer au fur et à mesure de faire tourner un petit peu l'accrochage pour faire découvrir les différentes pièces.
Il y a combien d'œuvres en réserve?
Alors, il y a à peu près 17 000 pièces en réserve pour à peu près 1 000 pièces exposées. C'est un ratio qui est globalement celui des musées de France.
Que vous avez assez de réserves pour 17 ans, là, si vous accrochez 1 000 pièces par an, à peu près, c'est ça?
Il y a des choses plus ou moins intéressantes dans les réserves. On ne va pas quand même se mentir. Le meilleur du musée est quand même présenté. Je crois qu'il faut le dire parce que ça stimule un peu des fantasmes, quand même, cette histoire des réserves, on nous cacherait des choses. C'est pas vraiment ça, c'est aussi qu'il y a des collections qui se complètent. On va présenter un exemplaire d'un ensemble, par exemple. C'est vrai que dans la collection de peinture, comme on a relativement peu d'espace pour présenter les tableaux, et notamment les grands formats, il y a un vrai intérêt à faire tourner les œuvres.
Vous qui êtes là depuis pas non plus très très longtemps encore, est-ce que la réserve, vous la connaissez dans son entièreté ou pas?
Ah, c'est une excellente question. Ouais, je crois que j'ai presque tout vu là. Après, on n'est jamais à l'abri d'une découverte, parce que parfois il y a des petits objets qui sont des caisses, etc. Mais globalement, oui, je pense avoir parcouru l'essentiel des réserves. Oui.
Mais d'ailleurs, moi, je voudrais ajouter, parce que les gens comprennent bien la fermeture du musée pendant 3 mois, tous les acteurs du musée font un travail de recollement.
Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire que c'est un travail, tu peux expliquer en deux mots pour le public.
Oui, c'est ça.
C'est un inventaire, voilà. À plus ou moins de degrés, hein, d'après ce qu'on a pu comprendre, enfin, ce que j'ai pu comprendre.
Oui, alors en fait, c'est une obligation légale, déjà, c'est important de le dire. Il s'agit de vérifier tous les 10 ans que toutes les œuvres qui sont sur l'inventaire du musée sont bien présentes.
Oui, qu'il n'y en ait pas qui aient disparu.
Exactement, non, mais c'est quand même important parce que vous imaginez 18 000 objets tout contrôler, c'est compliqué, donc il faut s'imposer de le faire périodiquement. Et on en profite pour vérifier l'état des objets aussi.
Ouais.
Et ça, ça permet d'envisager des campagnes de restauration, par exemple.
D'accord.
Ou de retrouver des objets dont on se dit « Ah, mais ça, c'est super intéressant, on va les présenter. »
Et vous devez faire des retours, peut-être, à un centre national d'art, je ne sais pas,
alors, oui,
et
tout
expliquer
à fait, oui.
dans quel état sont certains tableaux, certaines pièces, certains vases, tout ça.
Oui, alors, en fait, on doit rendre des comptes, effectivement, au ministère de la Culture, et plus précisément à la Direction régionale des affaires culturelles, qui nous demande donc nos procès-verbaux de récollement, qui officialise ce qu'on a effectivement récolté.
Ouais.
Et après, on est aussi dépositaire, on reçoit en dépôt des œuvres qui viennent d'autres collections, parfois des musées nationaux, par exemple. Et là aussi, on est tenu quand même de les entretenir, de les maintenir en bon état.
Oui, voilà. Bien sûr. Le musée, c'est également des événements, alors parfois ponctuels, et puis parfois aussi, comme la Nuit des musées, par exemple. Et puis, il y en a des plus réguliers, comme les ateliers, par exemple. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver des ateliers pour cette saison estivale sur des thématiques spécifiques ?
Alors, ce qu'on fait en général, c'est que les ateliers s'inscrivent vraiment en écho, soit aux événements, effectivement, soit aux expositions temporaires. Donc, on va effectivement avoir une programmation d'ateliers assez régulière, donc les lundis et jeudis en juillet-août, donc qui auront lieu tantôt au musée, tantôt dans d'autres monuments de la ville. Et on va notamment en avoir en écho à l'exposition de cet été, qui sera dédiée à la figure de Jacques Tuilier.
Ça fait partie du gros projet de cette saison.
Oui, je crois qu'on peut dire que c'est le projet qui va tous beaucoup nous occuper au sein du service là, dans les mois qui viennent.
Oui, c'est un projet phare. Hein, et vraiment, moi, je suis très contente parce qu'on a eu ce legs des frères Tuilier qui était riche et important. Et les gens ne peuvent pas s'imaginer le nombre d'écrits, de gravures, de peintures, de tout ce qu'ils nous ont légué.
Ouais.
D'ailleurs, il y a toujours une personne, je crois, à la médiathèque qui travaille, qu'on a missionné exprès justement pour faire ce recollement, enfin, si on peut dire ainsi. Et puis, surtout, il faut quand même que Marie-Lise le dise grâce à son travail. Je ne sais plus si ça s'appelle toujours l'œil absolu ou voilà.
Tout à fait. Hein, l'exposition a obtenu le label Exposition d'intérêt national.
D'accord.
Ce qui n'est pas rien.
Parmi une...
Ça permet quoi ?
C'est une reconnaissance en fait du travail scientifique effectué et aussi de la volonté de faire de la médiation de manière encore plus active à destination des publics.
D'accord, ok.
Donc on monte un dossier et chaque année, il y a à peu près une à deux expositions par région qui sont sélectionnées, donc soit une vingtaine d'expositions.
D'accord. Et donc celle-là en fait partie ?
Celle-là en fait partie, donc c'est évidemment un grand honneur en fait déjà. Met un supplément de pression bien sûr dans toute cette organisation d'expo.
Oui, on peut être fier parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Hein.
Et on aura bien sûr l'occasion de la découvrir, les dates pour cette expo ?
Alors cette exposition commencera le 28 juin et s'achèvera le 31 décembre. C'est une grande exposition et on aura du temps aussi pour la découvrir.
Elle sera à découvrir après la Nuit des musées parce que c'est le 17 mai, la Nuit des musées.
Oui.
Un mot rapide sur cette Nuit des musées, donc c'est la possibilité d'aller découvrir finalement ce qu'on peut découvrir de jour, mais là de nuit. Qu'est-ce qui change finalement la Nuit des musées ? C'est l'obscurité de la nuit qui change la vision sur l'expo, finalement le regard qu'on peut avoir ?
Alors effectivement, je ne me suis pas posé la question comme ça, mais je crois qu'il y a une forme de magie effectivement à découvrir le musée le soir, dans une atmosphère où finalement seules les équipes du musée le fréquentent habituellement. Et puis ce qui est intéressant à Nevers, c'est que là on propose depuis 3 ans de découvrir 3 lieux en même temps. C'est-à-dire que c'est pas seulement le musée de la faïence et des beaux-arts, mais c'est aussi le musée archéologique de la Porte du Crou et l'espace patrimoine au sein du Palais Ducal. Donc il y a un cheminement qui peut se faire aussi en nocturne entre ces 3 lieux.
Et découvrir des lieux différents, avec une architecture différente, parce que d'une époque aussi différente. Et c'est intéressant, bien sûr, de rencontrer. C'est le 17 mai, hein, cette nuit des musées.
Bien sûr, avec des guides et puis aussi avec un ensemble vocal, l'ensemble Parchemin, qui sillonnera comme ça aussi ces 3 lieux, donc amenant justement les visiteurs à se déplacer eux-mêmes.
Et de la vie en pleine nuit, donc dans le musée de la faïence et des beaux-arts de Nevers. On va rappeler quelque chose aussi qui est important pour les personnes qui veulent se rendre au musée et qui parfois, surtout pour les personnes plus jeunes qui nous écoutent et qui se disent qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se rendre au musée, ce qui est important de dire, c'est que c'est gratuit déjà pour les moins de 25 ans, pour les étudiants et pour les apprentis professionnels aussi de la culture, pour les enseignants et pour les journalistes, ça tombe bien. C'est gratuit également tous les premiers dimanches du mois.
Oui.
Est-ce que vous ressentez une fréquentation plus forte les premiers dimanches du mois?
Oui, c'est une information qui a eu un peu de peine à se diffuser au début, mais maintenant je crois qu'elle est assez connue. Mmh. Effectivement, les premiers dimanches du mois sont généralement de bonnes journées.
Avec des familles qui s'y rendent peut-être
Avec des familles, mais tous les types d'âge, puisque finalement les familles sont déjà assez avantagées en termes tarifaires. Hein. Mmh. Mais non, tous les types de publics fréquentent vraiment cette journée et profitent de l'opportunité.
Et puis dans la gratuité, les microfolies, le jardin et les salles d'expo temporaires, finalement tout l'espace rez-de-chaussée, ces microfolies, elles seront à retrouver également. On sait qu'elles ont été donc au Palais Ducal pendant la fermeture du musée. Elles reviennent maintenant au musée.
Oui, tout à fait. Alors, elles reviennent, mais avec une formule un petit peu différente, puisqu'on a aussi tiré quand même parti de cette expérimentation au Palais Ducal, qui a été très riche pour nous, parce qu'on a pu déployer vraiment l'espace avec plusieurs zones d'activité et permettre aussi une vraie programmation au sein de l'espace. Donc là, effectivement, elles réintègrent le musée, pour le moment ou pas, on verra ce que l'avenir fait de ce dispositif. Mais tout est qu'on a créé une vraie petite zone de confort où on peut s'installer, lire des livres, etc. Une vraie zone dédiée à la réalité virtuelle aussi. On va pouvoir comme ça avoir vraiment des usages plus diversifiés, plus intensifs.
Microfolie, c'est une manière d'amener le plus jeune public aussi vers une connaissance de l'art et un intéressement du moins pour l'art.
Moi, en tant qu'élu, c'était vraiment mon souhait que ça s'adresse aussi aux écoles. Et ça va faire son chemin, parce que là, on a eu quelques écoles, quelques classes. Moi, j'aimerais vraiment que les enfants dans les classes de primaire puissent découvrir des œuvres avec leurs professeurs, voient des musées magiques, parce que Microfolie, c'est ça aussi, cette présentation d'architecturale. Vraiment, moi, je suis très contente et j'aime beaucoup ce va-et-vient entre le Palais Ducal et le musée. Parce que si on la laisse tout le temps au Palais Ducal, ce que je veux, c'est que les gens se promènent d'un lieu à l'autre.
Oui, bien sûr.
Sache que... Alors, évidemment, ça demande du travail aux équipes du musée. Et je les en remercie parce que vraiment, ils sont dévoués et super à ce niveau-là.
Oui, et puis en fait, il y a aussi un dispositif, quelque chose d'intergénérationnel dans la microfolie qui est intéressant, parce que les enfants peuvent y aller aussi avec leurs parents, mais voir leurs grands-parents. Donc il y a quelque chose un lien en fait qui se crée, qui est vraiment très chouette.
À travers ces microfolies, donc on a l'occasion de retrouver maintenant au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers. J'ai remarqué quelque chose, j'ai l'impression que le Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers a marqué un gros coup depuis l'exposition sur la franc-maçonnerie.
Ah!
J'ai l'impression qu'il y a un engouement, une curiosité qui a monté depuis cette expo-là. Est-ce que vous confirmez ce que je dis ou pas?
Alors, ce qui est certain, c'est que l'exposition a une très bonne fréquentation au vu de sa durée et puis au vu des mois concernés, puisque c'est donc novembre-décembre qui ne sont pas les meilleurs mois de l'année quand même en matière de fréquentation, il faut le dire. Donc il y a eu un vrai intérêt, il y a eu un public qui effectivement ne vient pas habituellement. Donc j'espère qu'on arrivera à le faire revenir, justement à lui faire comprendre que le musée c'est aussi pour eux, pour lui.
Cette expo, il y avait peut-être une petite prise de risque, mais il y a cette volonté après le bilan de créer un engouement et d'aller sur des sujets un petit peu plus niches des fois pour certaines personnes.
Alors c'est un sujet de niche et en même temps pas tellement, parce que c'est un sujet qui suscite quand même beaucoup de curiosité
et d'interrogation.
Donc c'est pas un sujet de spécialiste non plus. D'ailleurs, il a vraiment été traité de manière accessible. Donc je crois que c'est aussi ça la leçon de l'exposition, c'est qu'on peut traiter de tous les sujets. C'est la manière de les aborder, de les transmettre qui compte vraiment.
Et j'espère qu'on aura l'occasion de retrouver des expositions similaires dans les jours à venir, dans les mois à venir au Musée de la France et des Beaux-Arts de Nevers. En attendant, il y a deux belles expositions à voir et la première, elle s'appelle L'Envers des Paupières. C'est une exposition de Julien Discrite en partenariat avec le Centre d'Art. Merci beaucoup, merci à vous.
Merci.
Voilà Bac FM, tout de suite c'est le retour du son pop rock. Vous avez rendez-vous à 18h30 pour une émission présentée par des élèves du lycée Raoul Folroy. Puis nous on se donne rendez-vous demain à 10h30 avec Action, votre rendez-vous ciné. Je serai avec Letty, très bel après-midi à vous et à demain.